La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
La passion des affaires temporelles, Jacques Maritain, dans son temps. Bonjour. S'il est un philosophe dans la cité, c'est bien Jacques Maritain. Philosophe dans la cité, le titre d'un colloque qui s'est tenu à Cerisy. On peut retrouver les actes où on a étudié finalement l'importance de l'inscription dans le temps et dans l'histoire de Jacques Maritain. Ainsi, le mythe du philosophe dans sa tour d'ivoire qui passe à cogiter ou dans son poêle en train de refaire un monde comme Descartes est complètement mis à bas, surtout quand il s'agit de Maritain. J'aimerais vous proposer une relecture en deux volets, autour finalement des années 1930, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour nous permettre, nous qui sommes 80 ans après, de réfléchir sur notre christianisme. Ces deux volets vont avoir une dimension, on va dire, prophétique, ou du moins attentionnée et réflexive, pour ce qui est des questions brûlantes, la montée des totalitarismes, des fascismes, la question de l'antisémitisme, la vision de l'approche de la guerre, et, deuxième volet, la réponse qu'on peut donner dans un moment extrêmement difficile. N'oublions pas, Jacques vit avec Raïssa Oumantsov, son épouse, qui est juive d'Ukraine, elle est née à Mariupol. Vera, sa sœur, vit avec eux. Et on peut dire que les parents de Oumantsov ont tenu une bonne place dans la vie du trio. Donc, on pourrait dire que Maritain a pour biotope, finalement, le judaïsme. En tout cas, il est dans un milieu proche, qui connaît très bien, avec tous les amis de Raïssa et de Vera. Et je pense que cela donne une vision particulière à ce deuxième volet que je vous proposerai, de réponse de Jacques Maritain à la guerre. Comment va-t-il vivre la guerre et que va-t-il faire? Que va-t-il écrire? En guise de chapeau, d'introduction, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui a écrit une sorte de florilège intitulé « Maritain en toute liberté », sous-titre « Page choisie ». Il s'agit de Charles Blanchet. Vous pouvez trouver ce recueil épuisé, mais on le trouve un peu sur les réseaux secondaires, on va dire ça comme ça. Il est donc dans l'édition, la collection « La nuit surveillée » et il est aux éditions du Cerf, Paris, 1997. Charles Blanchet présente ainsi cette passion des affaires temporelles. Jacques Maritain fut étonnamment présent aux batailles temporelles du XXe siècle, surtout entre 1930 et 1950. Le nombre de livres provoqués par les sollicitations de l'histoire en témoigne. Maritain a existé passionnément avec son temps. Il fut sur la brèche aux moments historiques les plus graves. Il lui arriva de prendre le ton prophétique de celui qui annonce les malheurs qui se dressent à l'horizon. À la fin de ce siècle, après tout ce que nous avons vécu, qui pourrait le lui reprocher? Il eut souvent le sentiment de vivre l'agonie du monde ou le crépuscule d'une civilisation. Cette sorte d'office prophétique ne l'empêcha pas d'être lucide au fur et à mesure que les événements surgirent dans l'actualité entre 1930 et 1940. Jamais il ne se réfugia dans le discours apocalyptique, mais chaque fois, il prit position et paya de sa personne, dénonçant le franquisme, 1936 avec la guerre d'Espagne, le nazisme, l'antisémitisme dès 1938, le vichysme dès septembre 1940. Voilà ce paragraphe qui nous permet de percevoir combien des fidèles, des disciples de Maritain l'ont compris de l'intérieur. On peut penser à un autre qui a si bien rédigé une partie autobiographique, une dimension artistique, une dimension politique. Je parle de Henri Barthes, à qui je consacrerai d'autres émissions hommagiales. Alors, comment commencer ? Par un extrait d'une œuvre majeure, vous le savez, Humanisme intégral, publié donc en 1936. C'est le fruit de conférence tenue pendant l'été à l'université de Santander. Et ces conférences vont donner un recueil qui va marquer la réception de Jacques Maritain. Je parle bien de réception. Pourquoi ? Parce que le fil directeur de ce livre, c'est d'opposer le sacré et le profane à la sanctification, à la sainteté. Maritain dira que la catégorie de sacré qui est corrélative à celle de profane concerne et décrit un univers païen, antique. Mais qu'avec le christianisme, ces deux catégories connexes ne sont plus justes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas valides, qu'elles n'aient pas leur dimension importante, mais qu'elles ne ciblent pas de manière précise et juste la nouveauté qu'est le christianisme. Et c'est plutôt la notion de sainteté, donc de sanctification, qui va être le fil directeur de cette œuvre majeure qu'est Humanisme intégral, avec la notion de sanctification du profane. Et là-dessus va se greffer ce que vous connaissez peut-être, l'action politique pour le chrétien qui va s'engager. Là-dessus va se greffer une subalternation des disciplines qui va permettre, avec des freins infravalents, c'est-à-dire des fins attachées à un domaine, subalternées à un autre domaine, bien d'avoir une sorte d'autonomie de la philosophie à la théologie, du politique à la philosophie, du politique à la théologie, tout en étant dans une organicité complémentaires des différents domaines. Autrement dit, avec Humanisme intégral, le titre le suggère assez, il s'agit d'un nouvel âge. Un nouvel âge de quoi ? De culture chrétienne. Maritain, dans cet ouvrage, pose la distinction entre christianisme et chrétienté. Et il rappelle que pour lui, il y a différentes ères ou différents âges. Il parlera de l'ère médiévale, où le maître mot, c'est un théocentrisme. Donc tout est théocentré et on a l'alliance de l'autel et du goupillon. Cette ère médiévale, elle est caractérisée précisément par le sacré, ère sacrale. Avec la Renaissance, on passe à une autre ère, qui est l'ère moderne et qui est cette fois-ci anthropocentrée. Vous pensez tous à l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, où on a le corps humain dans sa spécificité musculaire, nerveuse, etc., qui devient la mesure de toute chose. Pour plagier Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. On peut reprendre cet aphorisme présocratique et l'appliquer à la Renaissance, où l'homme devient le centre. Et ce que propose Maritain, surtout immédiatement après la Première Guerre mondiale, c'est de faire une Europe qui soit humaniste, mais d'un humanisme théocentré, donc de recueillir les apports de la Renaissance tout en revenant à un théocentrisme, Dieu premier servi, Dieu d'abord. Ce nouvel âge, il l'envisage pas seul, il a plusieurs émules, notamment Vladimir Gicka. Je suis heureuse de le mentionner, puisque ses reliques sont insérées dans le nouvel autel de Notre-Dame de Paris. Petite parenthèse sur Vladimir Gicka, il fut toulousain. Donc, nous sommes les premiers concernés, né à Constantinople, il est éduqué ici, à Toulouse, il est élève avec son frère au lycée Fermat, il est brillant, c'est quelqu'un qui a ce don de pouvoir lire une page un peu en diagonale et de la photographier, pour ainsi dire, intellectuellement et de pouvoir la redire en détail, ce qui lui permet de lire énormément, très vite et d'avoir tout gravé dans sa tête. On a une photo de lui dans le Boulingrin, il joue avec un cerceau. Il est accueilli à Montauban parce que la nourrice qui les élève est protestante. Donc la recherche est ouverte, où à Montauban, chez qui exactement, voilà. Je laisse aux auditeurs le soin de nous recueillir quelques précieuses données. Et Vladimir, à la différence de Démètre, son frère, qui lui va faire une carrière diplomatique et il sera au gouvernement roumain, Vladimir choisit, on va dire, l'appel à la suite du syndrome initié par Charles de Foucault, d'être une sorte de frère universel. Je veux dire une sorte parce qu'il est tellement, un tempérament tellement fort qu'il va choisir de dormir dans une roulotte dans la banlieue parisienne. Il décrit d'ailleurs dans des lettres son expérience de cils gelés par la glace, par le gel. Il n'arrive pas à les ouvrir au petit matin. Et puis, dans l'après-midi, dans la même journée, il est capable d'être dans les salons parisiens avec Nathalie de Serbie, les grandes têtes couronnées de l'Europe impériale, de l'ancienne Europe impériale et royale, et de tenir une coupe de champagne et de deviser de diplomatie. Donc, Vladimir unit finalement la vie pauvre d'un frère universel, façon Charles de Foucault, dans la banlieue parisienne, et de garder sa vie de prince. À l'âge de 50 ans, il est ordonné prêtre à Paris, à l'église Saint-Vincent, où on a le corps de Saint-Vincent de Paul. Vous imaginez la cérémonie. Il demande le biritualisme, c'est-à-dire de pouvoir célébrer dans le rite oriental la messe selon Saint-Jean Chrysostome pour les grandes fêtes et selon Saint-Basile pour certaines autres fêtes, et le rite latin. Il est ami des Maritains. Dès 1924, il fréquente Meudon. Il vient célébrer les messes. C'est lui qui se renseigne pour savoir comment faire un hôtel à Meudon, s'il faut un petit estrade, etc., etc. Et avec Jacques Maritain, il envisage une nouvelle Europe. Donc, c'est le rêve des années 20 et puis un petit peu 30. Ça va déborder, même si dans les années 30, ce rêve est un petit peu rogné, on va dire. Les ailes sont plus courtes parce qu'on se rend compte que la SDN a fait un autre travail, que les choses ont changé et que les groupes de pression sont devenus un peu plus durs, un peu plus forts. Donc voilà un peu cette émulation entre deux amis. Vous connaissez la fin de Vladimir Ghica. Il rejoint son peuple. Il rentre dans la Roumanie communiste et il va mourir à Jihlava, dans une des plus grandes prisons communistes, torturé. On le suspend à 2 mètres du sol, dans une cellule avec de la glace par terre. Voilà, malgré son grand âge, on le torture et il est donc un martyr au sens premier du terme, martyr chrétien. On peut être très fier d'avoir ses reliques à Notre-Dame. Il passait beaucoup de nuits à Montmartre, la nuit en prière, les bras en croix, à genoux, à réciter des chapelets, à prier pour le monde entier, Paris étant sous ses pieds du haut de la butte Montmartre. Donc ce genre d'idéalisme déteint bien sûr sur Jacques Maritain. Pour information, Jacques a envisagé un moment de fonder un ashram avec Raïssa, parce qu'ils étaient accablés de travail, et la règle qui s'était donnée, un jeune oblat de Saint-Benoît, mais ils n'arrivaient pas à la tenir, étant tellement sollicités. Donc c'est sur ce fond d'idéal chrétien, engagé dans la cité, que nous lirons après une petite pause hommagiale à Eric Satie, dont on va fêter le centenaire de la mort cette année.
Thank you.
Jacques Maritain a accompagné Satie dans ses dernières semaines, dans ses dernières heures, on pourrait dire. Alors cette passion des affaires temporelles, la voici dans un extrait de Humanisme intégral. Toutefois, si une nouvelle chrétienté réussit à s'instaurer, son caractère distinctif sera, croyons-nous, que cette transfiguration, par laquelle l'homme, consentant à être changé et sachant qu'il est changé par la grâce, travaille à devenir et réaliser l'homme nouveau qu'il est de par Dieu. Cette transfiguration devra atteindre réellement, et non pas seulement d'une façon figurative, les structures de la vie sociale de l'humanité, et comporter ainsi, dans la mesure où cela est possible ici-bas pour tel ou tel climat historique, une véritable réalisation sociale, temporelle de l'Évangile. Un nouvel âge de culture chrétienne comprendra sans doute un peu mieux qu'on a fait jusqu'à présent, et jamais le monde n'aura fini de comprendre cela, c'est-à-dire de rejeter de son sein le ferment des pharisiens, à quel point il importe de donner partout le pas au réel et au substantiel sur l'apparent et le décoratif, au réellement et substantiellement chrétien, sur l'apparemment et décorativement chrétien. Il comprendra aussi que c'est en vain qu'on affirme la dignité et la vocation de la personne humaine si on ne travaille pas à transformer des conditions qui l'oppriment et à faire en sorte qu'elle puisse dignement manger son pain. On retrouve quoi dans ces lignes? Eh bien, l'origine de Maritain. Son origine, il est petit-fils de Jules Favre, et il est d'un milieu libéral protestant qui ne pratique plus. Donc Maritain n'a pas de repère, et à 17 ans, on le voit se rouler sur le tapis familial de la salle à manger en disant « je cherche du sens à ma vie ». Il est désespéré. Il y a une sorte d'existentialité à la Kierkegaard, de cri de désespoir chez ce jeune homme qui cherche un absolu. Et quel est le repoussoir du christianisme? Eh bien, son incohérence par rapport à la pauvreté. Heureux les pauvres, béatitude. Donnez aux pauvres, partagez votre pain, faites au prochain, aimez le prochain comme vous-même. Et que voit-on? On voit le bourgeois endimanché avec des gants beurre frais, des chapeaux, des foulards, des voilettes, donner des rendez-vous amoureux à la messe de 11h. Je caricature à peine, mais j'extrais tout ça des grands romans du 19e siècle. Emma Bovary a ses rendez-vous dans la cathédrale de Rouen, etc., etc. Donc, un christianisme décoratif, c'est ce qui fait horreur à Maritain et ce qui a freiné sa conversion. Ce qui va avancer sa conversion, c'est la rencontre avec Léon Blois, c'est-à-dire avec un vrai pauvre. Il est débraillé, il n'a pas d'argent, il y a une guitare, un chien, des pavés dans la cour, ses deux filles et sa femme. Voilà l'écrivain idéal, quelqu'un qui est pauvre. Donc ici, la pauvreté exige, appelle une cohérence de la part du chrétien. Donc le christianisme décoratif, c'est le christianisme en gros bourgeois, de quelqu'un de repu qui met de côté le sermon sur la montagne, qu'il entend une fois par semaine éventuellement. On est chrétien de 11h à midi et après on est autre chose. Donc vous avez ici cette ligne de force qui construit Humanisme intégral, le substantiel opposé au décoratif. Il s'agit presque d'un christianisme social, que chaque personne est à manger, qu'elle est son pain, et alors on pourra parler de dignité de la personne humaine. C'est la grande ligne de force de Humanisme intégral. Deuxième, on va dire, note, je vais appeler ça des notes, de la passion des affaires temporelles, eh bien, c'est l'universalité spirituelle. Va-t-on laisser s'installer, depuis le XVIIIe siècle, avec la notion de tolérance? N'oubliez pas, Voltaire dit que les religions ont le fléau majeur, portent en elles le fléau majeur, qui est la violence, parce que c'est à cause des religions qu'il y a les guerres. Montesquieu reprend cette idée dans l'Esprit des lois et même dans sa dissertation de 1716 sur dissertation sur la politique des Romains dans la religion, et il montre que les Romains sont très tolérants Parce que peu importe la religion, l'essentiel, c'est qu'on laisse place à la dimension un peu crédule, superstitieuse, etc. de chacun, mais surtout qu'il n'y ait pas une religion fanatique, qui dise « nous détenons la vérité et nous l'imposons aux autres ». Alors Montesquieu décrit là l'Égypte en disant « ben voilà, l'Égypte était la religion fanatique que les Romains n'ont jamais voulu tolérer à cause du danger qu'elle représente, un danger de violence, avec le prosélytisme, la violence inhérente à une religion qui dit « je tiens la vérité ». Et donc la question se pose chez Voltaire avec le christianisme. Le christianisme dit « nous avons la vérité, le Christ, Dieu s'est incarné ». Et du coup, le reproche lui est fait d'être à l'origine de la violence, de l'intolérance et donc des guerres. Donc comment envisager une universalité spirituelle, Maritain pèse bien son mot, qui soit de ferment chrétien sans non plus s'imposer, sans non plus revenir à une ère sacrale médiévale. Il écrit, il essaie d'interroger cette question dans « Question de conscience », autre fascicule, 2 ans après « Humanisme intégral » en 1938. Le christianisme est maintenant en face d'une question absolument vitale, d'universalité spirituelle, qui évoque en quelque sorte la question type que sur un plan supérieur et transcendant, il a résolu au temps de saint Paul, en échappant aux prétentions du particularisme judéo-chrétien, et qui évoque aussi la question que sur le plan lui-même de la civilisation temporelle, il a résolue lors de la chute de l'Empire romain. Cette question ne se résout pratiquement que par une effusion du Saint-Esprit. Elle exige un dégagement héroïque, attestant la prévalence de l'Esprit, et l'indépendance de la religion du Christ à l'égard des choses qui sont à César et des régimes de civilisation terrestre et de la charge d'injustice établie qui grève souvent ces régimes, comme à l'égard des formes d'idolâtrie qui se réclament de la race, de la classe, de la nation ou de l'État érigé en absolu. Donc, premier argument fort, il faut une effusion du Saint-Esprit. C'est par grâce. On rejoint ici une position éminemment chrétienne. Vous ne pouvez rien sans moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce verset de saint Jean est très souvent commenté par Jacques Maritain, qui donne même au rien une valeur absolue. Sans moi, vous ne pouvez que faire le rien. Voilà, une interprétation un peu limite, comme on dit, mais qui est possible et que Maritain développe. Deuxième idée dans cette même page de questions de conscience, c'est l'universalité. Ce n'est pas pour un isolement idéaliste ou angéliste que ce dégagement se produit. La loi souveraine de l'incarnation continue de s'exercer ici, et tout en dégageant les choses du royaume de Dieu de formation historique qui tendrait à asservir ce qu'est la liberté même, cette loi souveraine de l'incarnation et la transcendance même de l'esprit, qui est une transcendance de surabondance et de fécondité, de don et de soi, une transcendance d'amour, font que les énergies du christianisme s'engagent encore et de nouveau dans la chair de l'humanité et donnent naissance dans l'ordre de la civilisation terrestre à des formations nouvelles et plus pures. Parce que la liberté chrétienne est une liberté engagée, et qui soulève et transporte les lourdes montagnes de l'histoire du monde, parce que, et c'est le mystère même de la vie chrétienne et de la croix, pour autant qu'elle s'engage au plus profond de l'histoire et du monde, pour autant qu'elle demeure libre et témoigne, qu'elle n'est pas de l'histoire ni du monde, mais du Dieu vivant. Cette page, je dirais tout simplement que c'est la réécriture du levain qui est dans la pâte.